Cette histoire des vaches maigres et des vaches grasses, ce songe du Pharaon interprété par Joseph, donne un message assez curieux parce qu'il invite à la prévoyance, alors que normalement la Bible en général invite plutôt au lâcher-prise, c'est-à-dire à ne pas se préoccuper indéfiniment du lendemain parce qu'après tout on verra bien. Et en général, la Bible et surtout l'Évangile d'ailleurs invite à faire confiance à Dieu, à la providence divine. On l'a lu, ça c'est tout ce grand chapitre sur les soucis du monde, quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, parce que tout cela ce sont les païens qu'ils recherchent, cherchez d'abord vous le royaume de Dieu et ne vous inquiétez pas du lendemain, etc. » Là, le texte invite à prévoir, à planifier, à se préparer. D'abord, je trouve ça très bien, parce que je n'aime pas les solutions simples aux problèmes compliqués. Et finalement, qu'il y ait une certaine dialectique dans la Bible me remplit de joie et d'enthousiasme. Parce que quand on lit ces passages sur la providence divine dans l'Évangile, il y a quelque chose de vrai, mais en même temps, il y a aussi quelque chose de faux. Évidemment qu'il faut quand même prévoir un petit peu l'avenir, et évidemment qu'il faut anticiper. On ne peut pas vivre tout le temps comme un oiseau sur la branche, ça va de soi. Par conséquent, la question est plus complexe. Et donc, il y a comme ça deux pôles. Un qui dise fortement, c'est votre responsabilité d'anticiper. Et l'autre qui dise, après tout, vous verrez, vous prendrez aussi les choses comme elles viennent. Eh bien, je trouve que les deux sont vrais. Il faut donc essayer de naviguer entre ces deux pôles sans donner trop d'importance à l'un ou à l'autre. C'est-à-dire sans croire que tout dépendrait de nous aujourd'hui et sans croire qu'il ne faudrait rien préparer. Alors après, il faut essayer de faire le tri et se dire, bon, je ne me préoccuperai pas trop de ce qui ne dépend pas de moi. Et pour ça, on verra bien. Et puisque je peux préparer, je le prépare. Ça, c'est de la sagesse humaine. Alors d'ailleurs, je pense que c'est la vérité. Maintenant, vous me direz, oui, mais l'histoire des vaches maigres, c'est dans l'Ancien Testament. Et la Providence, elle est dans le Nouveau. Donc, est-ce qu'il faudrait séparer les deux? Eh bien, je ne crois pas. Parce que même dans l'Évangile, et même dans les propos du Christ, il y a des moments où Jésus incite à la prévoyance. Je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est en particulier dans l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Vous savez, elles sont dans la nuit, et puis au moment où l'époux vient, il y a les vierges sages, elles avaient préparé de l'huile pour éclairer, et celles-là sont accueillies, alors que les vierges folles qui n'avaient rien préparé du tout sont prises au dépourvu et seront jetées dans les ténèbres du dehors. Et Jésus conclut en disant, « Eh bien, vous devez veiller. Priez et veillez. Priez, je peux faire, et veiller, c'est-à-dire veillez, soyez vigilants et préparez-vous vous-même. » Donc voyez-vous qu'on a les deux. Donc cela, je pourrais m'arrêter là. Maintenant, je me suis plongé plus en détail dans le texte du rêve du Pharaon. Et là, je me suis aperçu que les seules choses qu'on en a tirées jusqu'à présent, depuis 2000 ans, étaient des choses qui ne me convenaient pas trop, pour tout vous dire. En particulier, ce texte du rêve de Pharaon a servi à justifier un bon nombre d'abus du pouvoir de l'État. C'est-à-dire qu'on voit dans ce rêve que c'est le Pharaon, en tant que chef d'État, qui va avoir la sagesse de Dieu pour gouverner son peuple et faire en sorte que grâce à lui, le peuple ne meure pas de faim. Donc on a l'impression finalement qu'il y a une sorte de rôle donné au roi qui a du coup un pouvoir extraordinaire de sauver son peuple malgré lui. Parce que le pharaon va lever un impôt très brutal, un cinquième de toutes les récoltes, c'est beaucoup, hein. Il va lever un impôt brutal pour le bien du peuple. Et grâce à cette action-là, le pharaon va pouvoir sauver le peuple, je dirais malgré lui, parce qu'il va prendre les réserves dans son propre grenier et ensuite il les revendra. Et donc il y a cette espèce de primauté du chef du peuple à qui une révélation particulière a été faite. Il y a ce pouvoir donné au chef de réquisitionner quelque chose. Et il y a également, au Moyen-Âge, ce récit a servi à faire des spéculations sur la légitimité de l'impôt et sur ce que peut être une taxe vertueuse. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller aujourd'hui sur ces questions-là où nous trouvons tous être trop imposés ou trop taxés. Mais cela ne trouver des solutions politiques dans les textes bibliques me semble un peu douteux. Et puis par ailleurs, si on regarde le texte de près, on se rend compte qu'il y a énormément de questions non résolues. D'abord, la solution de Joseph me semble absolument imparfaite. Pourquoi Joseph demande-t-il de prendre un cinquième et pas la moitié? Parce que s'il y a 7 années d'abondance et 7 années avec rien, logiquement, pour lisser, il aurait dû dire on prend la moitié au début et puis comme ça, on a la moitié pour la fin. Donc finalement, sa solution, elle est à la fois trop exigeante, ça fait une double dîme, 20%, et en même temps, ça n'est pas suffisant pour régler le problème. Et puis ensuite, alors du coup, les théologiens du Moyen-Âge ont fait des calculs en disant « Oui, mais c'est parce que quand il y a une famine, en fait, on consomme quand même moins, donc on n'a pas besoin d'autant que quand on est dans l'abondance, enfin, j'en sais rien. » Et puis l'autre question, enfin, il y en a plein de questions dans ce texte. Je ne vous ai pas tout lu, mais si vous lisez la suite, vous verrez donc que le pharaon prélève 20% des récoltes. Et quand il y a la famine, qu'est-ce qu'il en fait? Il ne les donne pas, il les vend. Il les revend aux gens. Alors là, c'est quand même curieux. Il les prend gratuitement, et ensuite, au moment de la famine, il va les revendre, le blé aux Égyptiens, revendre ce blé qu'il avait pris gratuitement. C'est très bizarre. Alors tout ça, je vais vite aussi, me fait penser que Joseph finalement trouve une solution qui n'est pas, à mon avis, pas absolument idéal, mais il trouve une solution quand même pour éviter l'éclatement social que produirait la disette. Et il montre que pour ça, eh bien, si on veut éviter que tout aille à la catastrophe, il faut que chacun partage et qu'aucun ne manque, en quelque sorte. Qu'aucun ne manque de l'essentiel. Et même s'il faut se rationner un peu, éventuellement un cinquième, pas la moitié, je ne vous demande pas de tout donner aux pauvres. Mais même si vous donnez un peu, on ne demande pas l'égalité absolue entre les riches et les pauvres, mais il faut au moins partager un peu. Il faut trouver une solution. Même si elle n'est pas parfaite, il faut une solution, sinon on va à la catastrophe. Et en effet, on se rend compte là que les vaches maigres ont mangé les vaches grasses. Pourquoi? Eh bien parce que les vaches grasses n'avaient rien laissé. Si les vaches grasses avaient laissé de l'herbe, les vaches maigres ne se seraient pas transformées en carnivores en mangeant les vaches grasses. Elles préfèrent de l'herbe. Et donc la petite leçon là de morale qu'on en a tirée, c'est de dire ben, il ne faut pas tout prendre pour soi et il faut en donner un peu aux autres. Mais surtout, ce qui me plaît moi, c'est que Joseph trouve une solution. Cette solution n'est pas idéale, je vous l'ai dit. Elle est même très critiquable sur certains points. Mais il a trouvé une solution, c'est déjà pas mal. Et donc, je dirais que c'est à chacun de trouver une solution pour essayer de faire au mieux dans le sens du partage, en quelque sorte. Il n'y a pas de solution parfaite ou idéale, mais il faut essayer de trouver une solution. Et on n'est pas obligé d'attendre d'avoir trouvé la parfaite bonne solution pour la mettre en œuvre. Le tout, c'est d'essayer de faire quelque chose, même si ça n'est pas idéal, c'est déjà très bien de faire quelque chose. Donc ça m'ouvre, si vous voulez, des horizons. Joseph trouve une solution, à mon avis, pas juste, mais au moins il a fait quelque chose. Ensuite, on peut dire que, rentrer un peu plus loin dans l'affaire et se dire que le problème, en fait, c'est le Pharaon. C'est le Pharaon, parce que on nous dit dans le texte qu'au début, il se voit sur le Nil. Le Nil, c'était le fleuve divinisé de l'Égypte, parce que c'est de là qu'on attendait tout, la richesse, la fécondité, parce qu'il débordait et ça faisait des crues merveilleuses. Et donc le Nil, c'était celui qui donnait tout, c'était le fleuve de la Providence. Et donc le Pharaon se voit au-dessus du Nil et il se dit « Je suis celui qui gouverne à la Providence, je suis celui qui a la maîtrise de la Providence. » Et voilà que ça flanche, et voilà que la Providence peut manquer. Et c'est ça qui l'angoisse. Il se rend compte tout à coup qu'il croyait que le fleuve donnerait toujours la fécondité, la richesse, et voilà que tout à coup le fleuve peut arrêter. La Providence peut être en défaut. Et ça, c'est très angoissant pour lui. Très angoissant. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas le tout pouvoir. et que malgré sa foi, malgré sa foi en Dieu, dans la providence du Nil, de ce que vous voulez, eh bien parfois les conditions matérielles ne fonctionnent pas. Et c'est la même chose pour les sept vaches. Pourquoi sept, a-t-on dit ? Alors sept, pour les Juifs, c'est le nombre de la perfection, mais pour les Égyptiens, paraît-il, sept, c'était le nombre des planètes. Il y a sept planètes. Ils étaient astrologues, plus ou moins. Et par conséquent, pour eux, les planètes, ça représentait, le cours du monde, le fonctionnement du cosmos, qui était vu comme une sorte de perfection. Le monde tourne merveilleusement. Et voilà que ces sept planètes dont on dit que notre sort dépend, eh bien, patatras, ces sept planètes, au lieu de conduire à la richesse et à l'abondance, ça peut conduire à des épreuves et à des problèmes. Et ça, c'est très compliqué, parce que c'est finalement la remise en cause du fait que, justement, le monde matériel puisse toujours amener à la perfection et à la satisfaction. Donc le pharaon découvre que non, le monde matériel parfois ne marche pas bien. Voilà, il y a des problèmes dans le monde matériel. Mais ça n'est pas évident à accepter, ça. Même nous aujourd'hui, hein, quand quelqu'un tombe malade, on se dit « mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Le monde s'écroule, il n'aurait jamais dû tomber malade à 40 ans. » Mais oui, le monde matériel ne marche pas. Il y a des moments, parfois des moments de doute terribles qui nous prennent parce que le monde matériel se grippe et on voudrait que tout marche bien et ça ne marche pas. Voilà, cette expérience-là est extrêmement angoissante, extrêmement compliquée. Et ça va même plus loin parce que je vous ai dit, le pharaon pensait que ce n'était pas que le monde matériel dont on pourrait croire qu'il a son propre mode de fonctionnement, mais c'est sa foi en Dieu qui est remise en cause. Ce Dieu de la providence, comment, si je crois en Dieu, peut-il arriver une telle catastrophe comme cela de cette année de vaches maigres ? Comment peut-il arriver des catastrophes, des horreurs, des guerres, des famines, des tremblements de terre, des morts absolument injustifiées, des maladies insupportables ? Eh bien, c'est bien cela auquel est confronté le pharaon. Et de se rendre compte que finalement, le monde lui-même, finalement, nous balade. De vaches maigres en vaches grasses, de joie en peine, de naissance en deuil. Et finalement, notre vie, elle est comme ça, tiraillée sans arrêt entre du bien et du mal, entre des joies et des peines. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Le pharaon est désemparé. La réponse est complexe. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la réponse de Joseph. Joseph ne dit pas « Convertis-toi à Dieu, prie l'Éternel et il n'y aura plus de famine. » Joseph trouve une sorte de solution pragmatique et simple. Il dit, bon, écoute, on va s'adapter. Formidable, ça. La foi en Dieu n'empêche pas de s'adapter. La foi en Dieu n'empêche pas d'avoir un peu d'intelligence, un peu de pragmatisme et d'apprendre à accepter, laisser venir le monde comme il vient. La foi en Dieu n'est pas de tout attendre de lui. La foi en Dieu, c'est aussi, avec intelligence, de trouver des solutions. Je vous ai dit des solutions qui ne sont pas forcément parfaites. Hein. La foi en Dieu n'empêche pas qu'on trouve des solutions. Et même si c'est un peu du bricolage, eh bien, on va bricoler pour survivre dans ce monde. Parce qu'après tout, ce n'est pas si grave que ça. Comme le dit l'Évangile, et je crois qu'il a raison, l'essentiel, c'est le royaume de Dieu, c'est sa justice, c'est les trésors du ciel que personne ne peut nous reprendre. Ces histoires de famine, de maladies, de guerre et tout ça, c'est pas si grave. L'important, il est ailleurs. Donc, pour ce qui est du monde matériel, eh bien, écoutez, gérez ça comme vous pouvez, avec intelligence, pragmatisme, bon sens terrestre. Et puis voilà. Et puis pour ce qui est du reste, ben voilà, je vais vous donner des petits conseils. Nourrissez-vous des moments où ça va bien pour supporter les moments où ça va moins bien. C'est pas mal, ça. C'est pas faux, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que tout aille bien tout le temps. Non, non, ce n'est pas vrai. Il y a des moments où ça va bien, eh bien, ne les oubliez pas. Et nourrissez-vous de ces moments où ça va bien. Nourrissez-vous de ces moments d'abondance dans votre vie pour en accumuler une sorte de force et de confiance dans la vie, pour être capable de supporter en baissant la tête les moments où ça va mal. Parce qu'il y a des moments où ça va mal, eh bien, je vous dis, on baisse la tête, on rentre la tête dans les épaules et on avance, on attend. Cette année de vache grasse, cette année de vache maigre, et puis cette année de vache grasse, et puis cette année de vache maigre. Et donc on peut essayer d'avancer comme ça. Alors, en même temps, ça veut dire, effectivement, au moment des vaches maigres, de se rappeler les vaches grasses, mais aussi au moment des vaches grasses, se préparer et savoir qu'effectivement, on ne sera pas tout le temps dans les vaches grasses, que par conséquent, on ne peut pas vivre dans cette espèce d'insouciance, de croire qu'il suffit de profiter de la vie. La chose est plus compliquée. Il faut aussi se préparer psychologiquement et savoir que si aujourd'hui je suis jeune, un jour je serai vieux, si aujourd'hui je suis en bonne santé, un jour je serai malade. Est-ce qu'aujourd'hui même, sans me rendre malade d'avance parce que ça ne servirait à rien, est-ce qu'aujourd'hui même j'arrive à mettre en place un mode de vie, un rapport à ma vie et aux événements qui puisse tenir le coup si tout à coup il y a matériellement quelque chose qui flanche, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire d'arriver peut-être dès aujourd'hui à prendre ce 20% de recul par rapport à la jouissance débridée de mon existence, ce petit recul qui fait que je ne suis pas pris dans la nécessité de vivre toujours dans l'abondance. Ça, c'est quelque chose qui est demandé aussi dans la loi juive, qui dit, vous savez, cette année cette année sabbatique là, qui est tous les 7 ans, où on disait, une fois tous les 7 ans, ou tous les 50 ans, je ne sais plus, le jubilé, vous ne ferez rien, ni récolte, ni semaille. Donc ça fait 2 ans fichus. Et de se préparer soi-même parfois à manquer de quelque chose, parce que je sais que je peux m'en passer. Bon. En tout cas, comment s'y préparer, je n'en sais rien. Mais il y a dans sa vie une sorte d'articulation complexe à trouver entre la providence divine, entre ce que peut donner l'État, peu importe, et ce que je peux moi préparer. Alors vous me direz, bon, très bien, mais le spirituel là-dedans, je crois qu'il faut en faire une lecture spirituelle. Parce qu'après tout, l'idée qu'il faille même matériellement thésauriser, mettre de côté dans une assurance retraite pour plus tard, je ne crois pas que ce soit la question franchement de la Bible. Parce que je crois que matériellement, le chrétien doit s'adapter à ce qu'il a. Et que matériellement, l'Évangile nous invite à dire, écoutez, ça n'est pas si grave. Parce que vous pouvez vivre riche ou pauvre, ça ne change rien. C'est ce que dit Paul dans un passage que j'aime beaucoup en Philippiens 4, quand il dit, moi, vous savez, hein, je ne dis pas ça en raison de mes besoins, parce que, dit Paul, j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. Je sais être dans l'humiliation, je sais être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc ça, c'est vraiment la base chrétienne. Pour ce qui est des choses matérielles, faites ce que vous voulez, mais votre bonheur n'est pas là et il faut être prêt à vivre dans toute situation. Quant à l'idée de posséder davantage et de mettre de côté, Jésus s'en moque. Dans cette histoire du riche qui se dit « je vais faire un grenier encore plus grand pour faire encore plus d'économies », et lui dit « ça va t'avancer à quoi? Si ça se trouve, tu seras mort tout à l'heure, et alors qu'est-ce que tu vas faire de tes économies ?» Alors, du coup, il y a eu, au Moyen-Âge, encore une fois, je vous l'ai dit, à cause de ce texte, une grande querelle dans les ordres religieux, en particulier de la part des franciscains, qui eux disaient qu'il ne fallait rien posséder. Et donc les franciscains ont dit, cette histoire de vaches folles et de vaches maigres, il faut l'interpréter spirituellement, et le but c'est pas d'accumuler des richesses matérielles, mais d'accumuler des richesses spirituelles. Ah ça c'est bien, surtout qu'on a un passage comme ça dans l'Évangile, où Jésus dit, amassez-vous des trésors, non pas sur terre où les voleurs volent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel que personne ne pourra vous prendre. Et donc, accumulons des trésors spirituels. Très bien. Et du coup, les théologiens du Moyen-Âge ont développé ça. Et juste pour illustrer mes propos, Nicolas de Lyre, un théologien du Moyen-Âge, a dit « Les 7 vaches grasses, ce sont les 7 vertus essentielles de la vie. » Alors, il en trouvait 7. Pour en trouver 7, il a dit « Il y a les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. » Plus les 4 vertus cardinales, ça c'était les vertus de Platon qui ont été reprises par les pères de l'Église, qui sont la prudence, la tempérance, la justice et le courage. Et donc, développez ces 7 vertus, et grâce à ça, vous arriverez à lutter contre les 7 péchés cardinaux, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Et donc, il faut arriver à accumuler des vertus pour lutter contre les tentations et les péchés. Bon, je crois que c'est très médiéval, ça ne nous parle pas tellement aujourd'hui, ça. Et en plus, ça ne colle pas trop, parce que si on va au bout du rêve du Pharaon, on dit que ce sont les vaches maigres qui mangent les grasses. Je ne comprends pas trop. Alors certains ont même fait une sorte de mixte en disant, bon, il faut payer la dîme, voyez-vous, il faut payer la dîme pour avoir un trésor dans le ciel. Astucieux aussi. Mais ça ne marche pas, évidemment, parce que rapidement, ils se sont aperçus que ça ne colle pas, puisque Joseph, à la fin, revend les réserves. Et le Jésus ne va pas vendre ses grâces. C'est ce qui s'appelle le péché de simonie dans l'Église. Alors d'autres ont dit, mais si, parce qu'il faut des bonnes œuvres. Enfin bref, je passe les interprétations médiévales, mais ce que j'ai retenu cette voie dans laquelle la pensée du Moyen-Âge m'a entraîné, c'est que certainement, il ne s'agit pas là que de biens matériels, ni de pragmatisme dans la gestion de nos affaires terrestres. Mais certainement, est-il question là de nous gorger d'amour et de joie quand c'est le moment. Ou alors de vivre pleinement notre foi quand c'est le moment, pour les moments où elle manquera. Parce que la vie va toujours de haut et de bas. Il y a des moments où on a une foi formidable et des moments où on ne l'a plus. Et on ne peut pas sans arrêt dépendre de ces états d'âme. Ou c'est pareil, dans les relations avec nos proches. Il y a des moments où on est très, très heureux d'être avec son conjoint ou très amoureux, des moments où on l'est moins. Et donc on ne peut pas sans arrêt, au moment où on est amoureux, faire l'amour et quand on l'est moins, divorcer. Et il faut arriver à faire une sorte de lissage. Et ce lissage est absolument essentiel pour arriver à trouver une certaine égalité dans les choses. Et c'est la même chose pour la foi. J'ai vu récemment un pasteur évangélique qui croyait justement dans un Dieu qui apporte une providence divine. Donc il tombe gravement malade. Il croit en Dieu, il prie, amen, Seigneur, guéris-moi. Il tombe malade très gravement et au bord de la mort, et à ce moment-là perd la foi. Et il l'a dit lui-même qu'il en était à ne plus lire la Bible et même à renier Jésus-Christ. Heureusement, des frères ont prié pour lui, il a guéri, alors il a retrouvé la foi. Mais je suis très inquiet, parce que, si on a la foi quand on va bien et qu'on la perd quand on va mal, quelle foi va nous soutenir? Et la foi peut nous soutenir si on accumule une sorte de quantité de foi, et ce qui fait que même quand ça va mal, je garde la foi. Et j'accumule une quantité d'amour qui fait que même quand j'en manque, je me souviens qu'il y a des choses extraordinaires qui me nourrissent et qui me font vivre. Parce que la question dans ce texte, et ça m'a interrogé longtemps, c'est qu'on voit que d'une certaine manière, les vaches maigres, pendant un certain temps, cohabitent avec les vaches grasses. Donc ce n'est pas juste une succession, voyez-vous, il y a un moment où elles sont ensemble, puisqu'elles les mangent. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la pensée, il faut justement essayer de faire en sorte que de faire un lien entre les deux? C'est-à-dire, quand on est dans les vaches grasses, il faut se préparer aux vaches maigres, et quand on est dans les vaches maigres, se rappeler des vaches grasses. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ne pas séparer les deux, comme si les deux étaient totalement coupés. Et donc, quand tout va bien, se souvenir que ça n'est pas forcément durable, c'est pas ça pour se gâcher ses joies, mais c'est pour vraiment prendre nos chances comme des grâces. Ça, c'est peut-être la clé de la vie. Prendre nos chances comme des grâces et non pas comme des dus. Prendre nos joies, non pas comme si c'était quelque chose d'établi pour toujours, mais comme si c'est quelque chose qui nous est donné pour un jour. Oui, aujourd'hui, j'ai cette chance. Amen. Alléluia. C'est une grâce. C'est pas un don. C'est pas pour toujours. Et j'en profite parce que je l'ai d'une façon provisoire. Et donc, de voir que dans notre vie, tout est provisoire, et que le provisoire doit nous inviter à profiter d'autant plus de ces chances que nous avons. Et puis quand ça va mal, se rappeler aussi que ça n'est pas toujours aller mal. Je sais que c'est un peu trivial, chacun l'interprétera d'une façon plus importante pour sa vie, mais quand par hasard j'arrive dans le métro, au moment où les portes du métro se ferment, ça m'agace. Je me dis, j'ai jamais de chance. Mais j'oublie que la veille, je suis entré juste au moment où les portes se fermaient et j'ai eu de la chance. Mais ça, je l'ai oublié. Voilà. Et donc, je me dis, ah, c'est vrai, là, j'ai pas de chance. Mais il y a quand même plein de fois où j'ai eu énormément de chance. Ça aide à relativiser, sûrement. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout parce que, finalement, peut-être que ces histoires nous invitent à voir la vie comme une globalité. Et Joseph invite à voir les choses en anticipant et d'une façon plus large, et de dire, oui, par exemple, je suis vieux aujourd'hui, mais non, je n'ai pas toujours été vieux. J'ai aussi été jeune. Ou inversement, je suis jeune, oui, mais je suis jeune, je peux tout, mais peut-être qu'un jour, aussi, je serai vieux. Et donc, de voir la chose comme une globalité, et que dans la globalité, les choses à peu près s'équilibrent. Je me souviens que dans une famille durement frappée par le deuil, me disait, ah, finalement, on vient chaque fois pour des enterrements. J'ai dit, vous savez, dans une famille, il ne peut pas y avoir plus d'enterrements que de naissances. Il me dit, mais si, bien sûr que si. Je dis, ben non, parce que toute personne qui meurt, elle est née. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, dans une famille, il ne peut pas y avoir plus d'enterrements que de naissances. C'est comme ça. Et donc, il faut voir les choses dans leur globalité. Et même en ce moment où effectivement j'ai été frappé par un bon nombre d'annonces de deuil dans la communauté, on dit, ah là là, c'est beaucoup de souffrances, beaucoup de morts, de maladies. Je dis, oui, mais combien j'ai reçu de faire part de naissance? Mais il y en a plein aussi. Et donc, finalement, voir les choses comme une globalité, ça, c'est la chance du pasteur, peut-être. Parce que, effectivement, moi-même, le même jour, je peux baptiser un bébé le matin et enterrer quelqu'un le soir même. Et ce qui fait qu'on voit la vie comme un tout. Et la vie, c'est la naissance, c'est la vie, c'est l'activité, c'est la vieillesse, c'est la maladie, c'est la mort. Rien en soi n'est la vie. La vie, c'est un tout. Et il y a une sorte de chose qui fait que ça a du sens. Mais surtout, et ce que je découvre peut-être que ce que j'ai trouvé finalement dans ce texte et ce qui me semble le plus essentiel, et là, c'est peut-être la clé de la vie finalement, c'est dans la solution de Joseph. C'est qu'il demande de mettre de côté, bon, c'est ce que j'ai essayé de vous justifier là, je ne sais pas si c'est entièrement convaincant, mais j'ai essayé. Par contre, ce que je vais dire, c'est convaincant. C'est qu'il il demande de mettre de côté, mais il ne dit pas « chacun va faire son petit stock pour soi, comme ça il aura de quoi se nourrir quand il aura faim ». Il prend les réserves et il le met dans la collectivité, voyez-vous ? C'est-à-dire qu'il met de côté pour la collectivité. Ça, c'est le secret, je crois. C'est pas pour soi, ça c'est l'idée géniale. C'est pas chacun qui se fait sa réserve. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui vient nous aider quand on est dans la difficulté ? C'est peut-être nos souvenirs ou je ne sais quoi, etc. Mais c'est pas vraiment ça. Ce sont les autres. Ce sont les autres qui nous aident. Et effectivement, c'est que dans la difficulté, quand on a un problème, c'est les autres dont on a besoin et qui peuvent nous soutenir, nous consoler ou nous aider ou nous donner de l'amour, de la tendresse et de la lumière. Et quand je suis, moi, dans la maladie ou quand je suis vieux, ceux qui me donnent la vie, ce sont mes petits-enfants, mes petits-neveux. Et quand je suis malade, ceux qui me remplissent de joie, c'est ceux qui viennent me visiter. Et donc, ce sont les autres qui m'aident. Et mes vraies vaches grasses, ce sont les autres. Et donc, effectivement, la clé du secours dans ces difficultés, c'est de comprendre que c'est simplement dans les autres que se trouve tout. Et par conséquent, il y a effectivement dans la vie des moments où je suis aux dépens des autres. C'est vrai, oui, oui, et c'est pas un problème. Certains disent, oh, mais je suis vieux, j'en ai assez, je dépends. Et alors, vous êtes vieux, vous dépendez des autres, mais il y a des moments où on est jeune et où on peut donner aux autres. Et donc, dans la vie aussi, ça s'équilibre. Il y a des moments où on donne et des moments où on reçoit. Mais que la vie, c'est donner et recevoir. Ça n'est rien d'autre. Personne ne peut prétendre être autonome et dire, moi, je ne dois rien à personne, je ne donne rien à personne, personne ne me doit, je ne dois rien. Ça, c'est la mort. C'est la mort. L'homme est un animal social et on ne peut vivre qu'en donnant et en recevant. Et en donnant avec autant de liberté qu'on reçoit avec liberté et gratitude. Il n'y a ni culpabilité à donner, ni culpabilité à recevoir. Mais que dans tous les cas, la solution, elle est là. Et donc, quand je suis dans des vaches grasses, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire ? Eh bien, c'est de donner, de partager, de donner pour la collectivité, pour les autres. Alors combien ? Je ne sais pas, l'Ancien Testament disait 10%. Là, Joseph, il dit, bah, tenez, donnez 20% même, si vous voulez. Vous en restera bien assez, vous en faites pas. En tout cas, j'en sais rien. Mais donnez. Donnez quand vous êtes dans l'abondance. Il faut donner aux pauvres, aider à ceux que l'on peut, aider ceux que l'on peut aider, et ne pas tout garder pour soi. On peut même se priver un peu pour donner aux autres. Et on peut donner, je vous ai dit, plus même que ne le demande la religion. La religion demandait 10%, Joseph dit donnez 20. C'est-à-dire donner au-delà de ce qui est raisonnable, au-delà de ce que demande la bonne morale, au-delà de ce que demandent vos impôts. Mais monsieur, moi je donne déjà mes impôts pour les pauvres, eh bien donnez encore le double. Donnez au-delà de tout, mais dans les vaches grasses, vous donnez. Et cette liberté de donner donne la liberté de recevoir, et de recevoir avec gratitude. Et là, je crois que j'ai raison là-dessus. Surtout que je vais m'arrêter là, mais il y a un texte qui demanderait de longs développements dans l'Évangile qui dit exactement ça. C'est la parabole du serviteur gredin, vous savez, l'intendant infidèle. Quand Jésus conclut en disant « Faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous reçoivent ensuite dans leur tente. » C'est-à-dire, tant que vous avez la disponibilité de quelque chose, donnez. Et faites-vous des amis, c'est pas dire, bon, je me fais un ami, il me rendra service après, c'est transformez-le en amour, en relation, en tendresse. Et c'est parce que c'est ça le vrai trésor, et c'est ça la seule vache grasse qui pourra vous nourrir ensuite. Joseph a raison, et le Pharaon a été bien instruit, je crois, par cela. Dans cette histoire du rêve, voyez-vous, se trouve toute l'histoire de la vie, et toute l'exhortation de l'Évangile de donner et de recevoir, mais toujours de tout faire par grâce et surtout de tout faire en relation avec les autres. Amen.